Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende? Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Ces dons de médiumnité que certains et certaines prétendent avoir. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Il existerait, selon les dires et les légendes, parmi nous des êtres exceptionnels dont les pouvoirs vont bien au-delà de ceux du commun des mortels. Des dons en dehors de ce que nous pouvons voir, entendre ou ressentir. Des dons souvent attachés à la médiumnité. Dans cet épisode de Phénomène, je vous propose un voyage dans les phénomènes non expliqués liés à la clairvoyance et autres pratiques médiumniques. Un médium est une personne qui serait sensible à des influences subtiles ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Il pourrait percevoir les manifestations de l'au-delà et de ses esprits. La communication avec des esprits pourrait prendre plusieurs formes, notamment avec l'utilisation de plusieurs objets, table tournante, Ouija, télékinésie, ou qu'elle passerait par l'intermédiaire d'êtres humains vivants, par la télépathie, l'incorporation totale, partielle ou par des visions. Tout ceci permettrait d'obtenir des informations sur le passé, le présent, le futur, ainsi que sur la vie après la mort. L'idée de médiumnité est très ancienne et remonte aux chamans préhistoriques. De multiples activités, religions et cultures utiliseraient ces capacités de médium. Et aujourd'hui, nous allons tenter de démêler le vrai du faux. La médiumnité descend en fait du mouvement spirit de Allan Kardec. C'est une philosophie spiritualiste qui apparaît à Paris en 1857 et qui donne naissance à un mouvement socioculturel en Europe. Allan Kardec définit le spiritisme comme une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits possédant des lois morales et reposant sur une échelle spirit. Fondée sur la croyance en Dieu, en la réincarnation et la communication avec l'au-delà, ce courant de pensée estime que les médiums peuvent communiquer avec les défunts. Le mot spiritisme est donc un néologisme inventé par Allan Kardec. Cette doctrine, il explique dans son livre des esprits. Selon les spirites, la médiumnité serait une perception spéciale, plus subtile, qui permettrait à certaines personnes la faculté de servir d'intermédiaire aux esprits de l'au-delà. Ils considèrent que les médiums peuvent se diviser en deux grandes catégories. Les médiums à effet physique, ceux qui auraient la capacité de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles, ou encore les médiums à effet intellectuel, ceux qui seraient plus spécialement propres à recevoir et à transmettre les communications intelligentes. Une frontière infime dans la pratique de chacun. Pour communiquer avec ses défunts, anges, esprits ou entités, plusieurs méthodes existent et étaient notamment utilisées à l'époque du spiritisme. Les tables tournantes. Il faut tout d'abord faire la distinction entre les tables tournantes et les tables parlantes, c'est-à-dire celles qui communiquent avec un message à l'aide de coups frappés ou de typologie. Par exemple, un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. Une variante consiste en l'épellation des lettres de l'alphabet et la table signale la lettre choisie en donnant un coup avec la présence d'un secrétaire qui note les réponses ainsi formées. D'après les sources de l'époque, les tables tournantes se manifestaient par des effets sensibles tels que les bruits, le mouvement et le déplacement de corps solides. Il suffisait de se mettre autour d'une table, assis ou debout, de poser ses mains à plat dessus et attendre patiemment le phénomène, pouvant survenir en quelques minutes ou voire en plusieurs heures. On entendait généralement un craquement dans la table, prélude au mouvement circulaire qui s'accélérait de plus en plus à tel point que les participants avaient du mal à suivre le mouvement. Une fois le mouvement établi, on pouvait même s'écarter de la table qui continuait à bouger en tous sens et sans contact. Une pratique souvent réalisée en société lors d'événements mondains. Ces tables avaient parfois leur petit caractère. La table qu'utilisait par exemple Victor Hugo lors de ses séances spirit à Jersey ne supportait pas la position en losange de ses participants. La table Girardin. C'est une variante de la table tournante, nommée ainsi en souvenir de Delphine de Girardin, amie de Victor Hugo et femme d'esprit. Cette table était un guéridon dont le centre était équipé d'un cercle mobile en bois monté sur un axe. Sur la circonférence de ce cercle étaient inscrits les lettres de l'alphabet, les chiffres ainsi que oui et non. Cet ensemble tournait devant une aiguille fixe. Le médium, plaçant ses mains sur la table, posait des questions à l'esprit qui était censé faire tourner le cercle avant de l'arrêter devant l'aiguille, donnant ainsi le caractère voulu par l'esprit afin de composer des phrases qui étaient notées à nouveau par un secrétaire. Aujourd'hui, la pratique ressemble à celle du guéridon, une pratique toujours utilisée. Le Ouija et l'Aditor. Dans un précédent épisode sur Westrack Radio, nous avons étudié le cas de Estefania Guiterrez Lazaro et de l'impact de l'utilisation de la table de Ouija. Je vous invite à découvrir cet épisode complet sur la Ouija sur le site de west-track.com. Cet épisode s'appelle « Phénomène, séance de Ouija, la tragique affaire d'Estefania Guiterrez Lazaro ». Pour rappel, la Ouija, ou le Ouija, est une planche qui permet de communiquer à l'aide de lettres et de chiffres. Au XIXe siècle, cette planche était recouverte de feutrine sur laquelle on collait les lettres de l'alphabet disposées en arc de cercle. Étaient également disposés les chiffres de 0 à 9. Le médium utilisait une planchette qui épousait la forme de sa main sous laquelle étaient plantés des clous de tapissier pour un bon glissement et afin d'éviter le bruit de frottement. Aujourd'hui, cet objet s'appelle la goutte et est parfois remplacé par un simple verre. Le médium posait donc sa main sur la planchette ou la goutte. Sa main serait guidée par l'esprit qui dirigerait la Ouija, et ce de façon automatique et rapide vers les lettres et les chiffres qui forment ainsi un message. L'assistance d'un lecteur ou d'un transcripteur était à nouveau utilisée. L'Aditor. L'Aditor est une variante de la Ouija et fut utilisée par le violoniste et compositeur Florizel von Reuter, assisté par sa mère, la médium Grace von Reuter, dans les années 1920. La particularité de l'Aditor est d'être une règle droite où sont inscrits des lettres et des chiffres devant lesquels se déplace un curseur dans une rainure. Madame Grace von Reuter l'utilisait les yeux bandés, parfois. Elle posait les doigts sur le curseur qui se déplaçait à grande vitesse, sous l'influence supposée des esprits, pendant que son fils Florizel von Reuter notait les lettres ainsi obtenues. Ces messages reçus étaient principalement dictés en sens inverse de la lecture normale, c'est-à-dire la première lettre obtenue était en réalité la dernière de la phrase, la deuxième lettre correspondait à l'avant-dernière, etc. Ces messages répondaient à des questions posées par des personnes invitées à la séance. Certains de ces messages étaient reçus dans une langue inconnue du médium, mais compris lors de la séance grâce à l'entité. Cela s'appelle la xénoglossie. L'écriture médiumnique ou psychographie. Appelée psychographie du temps d'Alan Kardec, elle correspond à la méthode la plus répandue pour recevoir des messages qui viendraient d'esprit. Le pratiquant s'assoit à une table, pose une feuille de papier devant lui et tient un stylo en main au-dessus de la feuille. Le but serait de laisser l'esprit influencer les pensées ou le bras du médium. Les spirites distinguaient plusieurs types de psychographie encore utilisées aujourd'hui. L'écriture intuitive ou l'écriture inspirée. Avec cette écriture, un esprit communiquerait au médium des idées et pensées que celui-ci retranscrit avec ses propres mots, sa façon de parler et sa propre écriture. L'écriture automatique, mécanique ou semi-automatique, semi-mécanique. Avec ce type d'écriture, le médium n'a aucune idée de ce qui est écrit. Il ne contrôle plus son bras, ce serait l'esprit ou l'entité qui lui seul écrirait. Le médium pourrait être dans un état de somnambulisme ou de transe, mais cela n'est pas obligatoire. Avec ce type d'écriture, le médium comprend ce qu'il écrit, mais il ne contrôle toujours pas son bras ni son écriture. Là encore, ce serait un esprit désincarné qui écrirait à sa place. C'est dans cette catégorie que l'on voit des cas de médium polygraphe, c'est-à-dire dont l'écriture change en fonction des différents esprits qui communiqueraient, prenant l'écriture et les tournures de phrases qu'avait l'esprit de son vivant, car finalement, ce serait lui qui écrit, le médium lui, n'opposant plus aucun filtre ni résistance. On y retrouve ainsi des cas de xénoglossie où le médium se mettrait à écrire dans des langues étrangères ou des dialectes qu'il ne connaît pas. La clairvoyance médiumnique. Ce type de médium voyant peut travailler à partir de la photo d'une personne décédée ou d'autres éléments. Les perceptions peuvent être des impressions, des sensations, des images ou des idées qui s'imposent clairement. La clairaudience médiumnique, un procédé qui se rapprocherait donc du sens de l'ouïe. Le médium auditif pourrait entendre les esprits de deux manières, par la perception d'une voix intime qui se ferait entendre dans son fort intérieur et qui serait reçue télépathiquement, par la perception d'une voix extérieure, claire et distincte, comme celle d'une personne vivante. Certains scientifiques qui ont étudié ces phénomènes considèrent que la médiumnité est le résultat de fraudes et de facteurs psychologiques. Il existe une expérience réalisée en 2003 par Briony S. Wiseman qui a démontré que lors d'une fausse séance de spiritisme, plusieurs personnes croyant aux phénomènes paranormaux, à qui il avait été suggéré pendant la séance qu'une table avait bougé, ont attesté à la fin de la séance que la table avait bougé alors qu'elle était restée statique. Cependant, de nombreux phénomènes restent inexpliqués. Et de nombreux scientifiques expliquent que nous n'avons pas les connaissances aujourd'hui pour assurer que ces phénomènes découlent d'un fait ou d'une croyance psychologique et non d'un fait paranormal. Je vous propose trois cas de médiumnité perturbants où des dons ont été mis au service de la justice. En 2002, une médium de Brescia, en Italie, Maria Rosa Bussi, âgée de 55 ans, a aidé les autorités à retrouver un corps. Chiarafa Barifi était une jeune fille disparue dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2002. Bussi avait dirigé une procession de plongeurs sur les rives du lac de Côme en disant « c'est ici ». On avait alors coulé un robot équipé d'une caméra et au fond du lac, à plus de 100 mètres de profondeur, il retrouve la voiture. Et la plaque d'immatriculation est la même, il n'y a donc plus de doute. Elle prétend que c'est la jeune fille décédée qui lui a dit qu'elle voulait qu'on la retrouve. Le 14 février 1991, l'hebdomadaire Visto publie un article intitulé « Il sentait que Lucas était là au fond de la mer ». L'histoire ressemble à celle que je viens de vous citer. Celle d'un garçon de Livourne, Lucas Del Gamba, parti pêcher avec son beau-frère Paolo Fellini sur une falaise aux portes de Livourne. C'était le 5 janvier. Une journée froide, venteuse, et c'est peut-être à cause du vent que le garçon avait perdu l'équilibre et aurait glissé dans la mer, disparaissant parmi les vagues. Les pompiers et les plongeurs se sont immédiatement mobilisés pour rechercher le corps, sans succès. Selon les journaux locaux, les pompiers avaient exploré et ratissé chaque étendue de mer. Aucun résultat le long des côtes et au large, dans le sable et parmi les rochers. C'est alors que le père du noyé décide de demander de l'aide, celle d'une médium de Côme, Amalia Agostena. La femme se concentre sur une photographie du garçon et dessine le profil de la côte à 300 mètres du rivage, une étendue de mer déjà explorée sans résultat. Visto, le journal qui publie cet article, confirme que c'était la femme qui avait indiqué exactement au plongeur où récupérer le noyé. À côté de la zone indiquée, le corps est remonté à la surface et récupéré par la police. Notre dernier cas concerne Nancy Meyer. Elle a travaillé sur 700 affaires criminelles et en a résolu 90%, un chiffre très troublant. L'histoire débute quelque part en Pennsylvanie. Au pied des collines se trouve une bourgade américaine parmi tant d'autres. Une femme qui promène tranquillement son chien s'appelle Nancy Meyer. Officiellement, Nancy Meyer enseigne l'espagnol. Mais elle exerce une toute autre activité, elle est ce qu'on appelle médium détective. Cette femme dit posséder le don de lire les pensées. Elle pourrait également percevoir des événements antérieurs aussi bien que futurs. Grâce à ses pouvoirs, Nancy est capable de prouesses étonnantes. Elle possède des facultés de médium depuis sa naissance, mais ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'elle va réaliser qu'elle est différente des autres. Très vite, dans la région, la notoriété de Nancy et de ses pouvoirs devient importante. Au point qu'un jour, la police vient lui demander de l'aide. Désormais, tous les services de police de la région viennent solliciter Nancy. Ses méthodes sont sans doute peu conventionnelles, mais elles fonctionnent. En plus de 35 ans de carrière, Nancy a aidé à résoudre plus de 90% des affaires criminelles sur lesquelles elle a travaillé. Peut-on ainsi confirmer que les médiums ont de réels dons ? Il n'est pas possible en effet de le confirmer, d'autant que de nombreuses personnes assurent un vrai business derrière la voyance et la médiumnité. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser du côté du mouvement Spirit. Ce mouvement dont nous avons parlé un peu plus tôt est arrivé au 19e siècle à Paris et malgré sa richesse, c'est un mouvement très complexe. Dans les précédents épisodes de Phénomènes sur Westrack Radio, nous avons parlé plusieurs fois de médiumnité. Je vous invite donc à découvrir tout le podcast directement sur le site de Westrack. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.